France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Kat Onoma, en grec approximatif, comme son nom l'indique. Dans le paysage musical français, cette formation a compté parmi celles qui ont poussé le plus loin les correspondances entre la composition mélodique et l'écriture poétique. En 1998, deux des principaux paroliers du groupe, les poètes Olivier Cadio et Pierre Alféri, répondaient aux questions d'Isabelle Druon dans le numéro de Nuit Magnétique que vous allez entendre dans un instant. Ce programme donnait aussi la parole, bien sûr, à Rodolphe Burger, figure centrale de Kat Onoma. Pas de révélation dans cette émission, rien qui permette de percer les arcanes de la composition et de l'écriture d'une œuvre. Mais tout de même, quelques pistes pour comprendre l'alchimie musicale, amicale, créative, qui fut le moteur de l'une des formations les plus marquantes de la musique et du rock français de ces dernières décennies. C'était le 10 avril 1998, dans Nuit Magnétique.
Nuit Magnétique, bonsoir.
Radio was telling me about the death of Billy the Kid. Today, a hot summer day with birds in the sky. Let us fake out the frontier upon.
Billy the Kid, je t'aime. Billy the Kid, je suis du même bord que toi. Il y avait le désert et l'embouchure de la rivière. Billy the Kid, malgré la nouvelle de ta mort et du miel dans le vent de Billy.
Palm with somebody could hide in with a sheriff's posse after him.
Kat Onoma, comme son nom l'indique.
Pour nous, c'est d'abord un nom propre. C'est un, et, mais il se trouve que il a une origine, enfin, qu'il n'est pas arrivé par hasard. C'est, il signifie en grec, comme, à peu près, si on tord un peu la traduction, comme son nom l'indique. Onoma, c'est le nom. Et Kat, c'est l'abréviation de Kata, qui signifie selon le nom. Pascal Benoît à la batterie.
Far from the pictures, how simple is a gesture delivering them.
Pierre Cailling à la basse. Models and merchants.
Far from the pictures.
Avant, on n'avait pas vraiment de nom, on s'appelait Dernière Bande. Enfin, on essayait d'esquiver le nom. Parce que pourquoi s'appeler les. Je sais pas quoi, les Flying Piquettes. L'arbitraire du nom, quoi, c'est un truc. Auquel finalement, oui, on a essayé d'échapper par cette ruse, la Kat Onoma, c'est comme son nom l'indique, c'est-à-dire c'est nous qui remplissons ce nom progressivement de quelque chose.
Do not object to nothing, let the grand jury judge. Say what you love,
Gibbix,
say
what Bigel, you love, what you will, what you may,
four. Rodolphe Burger, guitare et voix.
Philippe Poirier, au saxophone, et de plus en plus à la guitare. Et oui, c'est, on est les mêmes depuis le début. On joue ensemble depuis le tout début des années 80. On joue même depuis plus longtemps que ça avec le batteur. On jouait ensemble enfant déjà. Donc c'est une espèce de vieille histoire.
Des histoires d'amour, un mot, une émotion dans la voix, la poésie, la chanson. Un paradoxe, des machines, des sons, un mystère, des machines, une ritournelle, un tout petit fil, comptine, berceuse, babile, rythme, vibrations lyriques, interprétations, texte original, modifier le relief, cut-up, collage, boucle numérique, petite mécanique, matière vivante, base animale, c'est la radio qui, un refrain, une histoire. Autour de Katonoma, il y a bien évidemment la rencontre avec certains poètes. C'est ce qui fait aussi une des particularités du groupe. Ça a débuté en 81, je crois, la rencontre avec Thomas Lago.
Oui, en 81.
Rodolphe Berger.
Ça a été déterminant, ça a accompagné tout à fait toute l'histoire du groupe. Cela dit, je m'empresse de dire que c'est pas n'importe quel poète, enfin c'est pas du tout, c'était pas le projet du groupe de faire du rock poétique, si ça existe ça, le rock littéraire, enfin c'est quelque chose qui même qu'on désapprouverait plutôt en général. Je sais que l'on nous a proposé déjà, enfin on m'a proposé d'adapter des choses de Rimbaud, et ça c'est une idée qui m'a toujours déplu, la mise en musique de la poésie. Je trouve que la poésie ça suffit, que ça n'a absolument pas besoin de musique. Donc c'est un peu paradoxal, en fait, qu'on soit retrouvé à travailler pour les textes avec alors des poètes. En premier lieu, Thomas Lago, et puis assez vite aussi Olivier Cadio, Anne Portugal, et puis bon, il y a eu ce album entier inspiré d'un texte de Jack Spicer, d'un poète américain, des années 50-60. À chaque fois, ça s'est pas fait. Enfin, ça s'est fait dans un paradoxe. C'est-à-dire, c'est jamais des textes poétiques au sens habituel, banal du terme. C'est pas des textes poétisants, je pense pas. C'est des textes qui, à chaque fois, nous retiennent par leur singularité, leur capacité d'être agencés avec la musique qu'on fait, mais dans un. Je dirais, il n'y a pas de recette pour ça, c'est à chaque fois une autre articulation. Ce qui est certain, c'est que on n'a pas envie d'être, de se couler dans un modèle de relation texte-musique qui serait ou le modèle anglo-saxon, même si on chante souvent en anglais. Je ne pense pas qu'on soit dans la même relation au texte que la plupart des groupes anglais ou américains. Donc c'est pas non plus la chanson française qui fait modèle pour nous, même s'il y a des choses merveilleuse dans la chanson française, ça fait pas modèle pour nous. Donc on est dans une espèce de recherche, les uns et les autres, d'une autre relation. Quelquefois, on a l'impression d'y arriver, et à ce moment-là, on dit que ça fait une chanson. Mais on sait jamais exactement par quel bout le prendre. Quand on y arrive une fois, ça veut pas dire que ça peut être produit et que ça peut faire modèle pour une deuxième chanson. C'est très, finalement, on ne sait pas bien. On sait pas bien.
Est-ce qu'on peut peut-être parler de plusieurs situations ? Il y a d'abord une situation affective, amicale, avec donc ces poètes, puisque ce sont des poètes, on les appelait comme ça. Puis il y a un goût peut-être aussi pour l'art poétique, pour reprendre un des livres d'Olivier Cadio. Un plaisir de retrouver certains textes et de finalement s'en servir et de pas forcément les détourner, mais de s'en servir, de les faire vivre ailleurs que sur le support d'un livre.
Ouais,
c'est aussi une façon d'échapper au libraire pour donner une seconde écoute ou une seconde lecture. Peut-être.
Oui, je crois qu'il y a vraiment, oui, ce qui est intéressant, c'est à un moment donné d'ouvrir de faire sonner un texte qui, au départ, était pas du tout prévu pour ça. D'arriver à le. Sans le trahir, c'est ça qui est un peu délicat. Sans trahir, le déplacer et le faire résonner autrement. Pour ouvrir une possibilité de mixage. Moi, je pense un peu les choses en termes de mix. C'est-à-dire que le texte, à un moment donné, devient un ingrédient dans un processus global qui est un processus de mixage. Dans ce processus de mixage, il y a beaucoup de choses. Il y a des sons, il y a des choses jouées, des choses, il y a des machines aussi qui interviennent. Il y a des textes. Et à un moment donné, quelque chose coagule. Et c'est vrai que je trouve plus intéressant d'essayer de faire ça à partir d'ingrédients littéraires forts, quoi, très, très singuliers. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec des écrivains, des véritables écrivains.
Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous liriez, c'est bizarre.
Dans ma chambre, alors je vous appelle Thomas Lago.
Oui, oui, c'est pour ça que je suis là.
Vous êtes la personne qui écrit beaucoup, beaucoup de textes pour Rodolphe, pour le groupe Catonoma, depuis 80, 81 à peu près.
Oui, depuis le début de Catonoma en tout cas.
Donc Thomas Lago, c'est pas un vrai nom, c'est un mystère.
Non, c'est pas un mystère, c'est juste que c'est quelqu'un qui écrit les chansons et qui fait ça très différemment de quelqu'un qui écrirait autre chose que des chansons. Donc, on trouvait ça plus simple, plus amusant d'avoir un auteur de chansons à part entière, quoi.
Il faut continuer à garder le secret.
Non, 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 c'est pas un secret, c'est juste, comment dire, c'est commode parce que c'est effectivement dissocié, donc que ça le soit dans le nom, et pas plus mal.
Donc on peut parler alors de ce côté dissocié. Bon,
oui.
On redit les mots tels qu'ils sont. La poésie, la chanson. Mm-hmm. D'un côté, vous écrivez de la poésie, vous appelez Pierre Alféri. De l'autre, vous écrivez des chansons, Thomas Lago. Vous avez certainement un recul, une façon de travailler qui est complètement différente. Peut-être un jeu aussi qui est différent. Et puis je crois aussi qu'il s'agit d'une histoire d'amitié au départ, d'échange.
Tout à fait. J'aurais jamais pensé écrire des chansons de mon propre chef. C'est vraiment parce que Rodolphe, avec qui j'étais déjà ami, composait des musiques pour lesquelles il avait besoin de textes, parce qu'il faisait de la musique avant, et il chantait d'autres chansons qui existaient avant, que j'ai essayé très timidement, avec beaucoup de crainte, parce que je ne pensais pas du tout y arriver. Et d'ailleurs, j'y arrivais très mal, j'y arrive toujours très mal, mais je l'ai fait parce que c'était dans une relation particulière avec et Rodolphe, et le groupe, et cette musique-là.
Donc en fait, il y a deux attitudes, celle de la poésie et celle de la... Enfin, chansons.
Ah, ça n'a absolument rien à voir, hein, parce que quand j'essaye d'écrire des chansons, j'essaye d'écrire vraiment des chansons. Je ne sais pas comment le faire, mais je sais que c'est en tout cas un but tout à fait différent. Je sais que ça va être transformé, travaillé. Rodolphe modifie énormément les textes. Donc, il prend des choses, quelquefois, qui ne sont pas celles auxquelles je tenais a priori. Inversement, il me fait refaire des choses. Donc c'est un processus de travail qui n'a absolument rien à voir. Qui n'est pas solitaire, d'abord. Voilà. Alors,
il y a un échange, en fait.
Oui, oui, complètement. Quelquefois, il y a d'abord un texte qui fonctionne ou pas avec ce qu'essaye de faire Rodolphe, qui se transforme à partir de ça. Quelquefois, il n'y a pas de texte au départ. Il y a déjà une musique. Et quelquefois aussi, ce qui est peut-être le plus bizarre, mais aussi le plus amusant, c'est qu'il y a un texte, qui est un faux texte, sur une musique qui existe, dont Rodolphe se sert, soit qu'il l'a pris ailleurs dans une autre chanson, soit qu'il l'improvise. Et sur la découpe de ce texte fictif, il s'agit d'en faire un qui puisse être utilisé.
Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent, ou pas forcément en fait ?
Bah, il y a les thèmes des chansons traditionnelles, quoi. On sait bien que les chansons, surtout pour le rock... Ça parle toujours de la même chose, toujours soit des histoires d'amour, soit... Bon, il y a d'autres poncifs comme ça qui sont... ils ne viennent pas à l'esprit, mais bon, des histoires d'adolescence au début du rock, de révolte, etc. Alors on peut puiser là-dedans, mais de façon un peu indirecte, parce que c'est très très codé. Mais c'est vrai que finalement, il y a quand même beaucoup de chansons qui parlent de ça, dans les chansons de Catonoma. Et puis, il y a des choses accidentelles, après, qui n'ont rien à voir, et qui fonctionnent. On ne sait pas très bien pourquoi. Mais ce n'est pas un choix vraiment, comment dire... ni moi, ni Rodolphe, je pense, ne faisons un choix thématique, a priori.
Est-ce qu'on peut dire qu'on retrouve des citations dans vos chansons, quelquefois ?
Beaucoup. Mais pas des citations. Ce n'est pas tellement des citations pour les références, c'est que je m'appuie sur tout ce que je trouve... Et comme en général, je ne sais pas du tout par quel bout le prendre, ça part souvent d'un tout petit fil, une expression, un jeu de mots idiot, une phrase lue quelque part, justement, ou un texte qui existe. Alors, par exemple, il y a pas mal de... Enfin, quelques-unes des chansons sur le disque que Rodolphe a fait seul, dont on s'était dit, a priori, que ça devrait être des sortes de ritournelles ou de comptines. Et pour ça, j'ai lu des choses qui me donnaient des idées de rythme, de refrain, etc. Et j'ai même démarqué carrément des textes de poètes classiques, de, je sais pas, de Emily Dickinson, ou je sais plus qui d'autre, Charles d'Orléans, je crois. Parce qu'il me fallait un appui, tout simplement. Et parce que j'ai pas du tout l'ambition de faire des choses originales. La seule chose qui compte, c'est que ça puisse être porté par la voix et marcher musicalement.
Il y a un certain plaisir faire ça.
Oui, c'est difficile aussi, mais évidemment, il y a un plaisir. Surtout après, en fait. Le vrai plaisir, c'est quand la chanson existe. Parce que c'est une grande surprise, en général. Ça ressemble pas du tout à... Parce qu'on entend des choses, quand on écrit, on entend, qu'on le veuille ou non, des choses un peu musicales. Et c'est généralement pas du tout ça qui se passe. Enfin, pas du tout ce que j'avais entendu. Et puis, le fait du chant, de toute façon, fait que c'est quelque chose que je peux pas reconnaître comme à moi. Donc, c'est forcément surprenant, émouvant, gênant, embarrassant, quelquefois. Mais très amusant. Et ça, c'est un vrai plaisir.
Elle existe, et puis elle peut être interprétée différemment aussi, donc... Ça peut être à chaque fois une nouvelle découverte, si c'est en live, si c'est...
Oui, bien sûr, parce que Katonoma fait beaucoup de concerts. Ils travaillent beaucoup musicalement. C'est vraiment c'est la musique qui les intéresse. Donc, ils changent beaucoup les morceaux. Ils essayent des choses. Ils changent de formation. Quelquefois, ils font des choses très minimales à partir de morceaux qui étaient très orchestraux, entre guillemets. Donc, même pour les textes, ça modifie tout. Des choses qui paraissaient des hymnes deviennent des berceuses, ou inversement.
Personne n'a vu, rien du tout. Olivier Cadio.
Je suis pas vraiment parolier. C'est un vrai métier de parolier. Donc moi, je le suis. Je suis vraiment pas. Donc en fait, j'ai de la chance parce que Rodolphe m'a demandé de faire des chansons sans me faire une commande trop sévère, trop sérieuse, que je serais pas capable de faire, je crois. Donc j'ai pris des morceaux, des bouts de mes livres, les passages que je trouvais les plus, pas nécessairement les plus chantables, mais je sais pas, comme des chansons à rebours, j'essaierai d'expliquer ça, je sais pas très bien. Et en fait, en donnant des morceaux à Rodolphe, c'est lui qui a fait les chansons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui a fait les chansons. Moi, j'ai fourni des matériaux. Donc on peut pas dire que je suis un parolier à 100%. Bon, d'abord, ce qui est rigolo, c'est d'espérer de faire danser les gens, déjà. De faire c'est amusant de faire des... je sais pas, faire du rock, c'est bien. C'est quand même pas pareil que de faire des livres tout seul dans sa chambre. Bon, donc c'est déjà ça qui est amusant. Et puis j'aime Katonoma, donc j'étais très fier qu'on me demande. Mais c'est vrai qu'on l'a fait de manière très bricolée. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est qu'une chanson vraiment, quelles sont les règles, il y en a. Curieusement, j'ai pris des textes, j'ai mixé des différents, par exemple pour Cheval Mouvement, j'ai mixé des textes différents d'un livre qui s'appelle Futur Ancien Fugitif, et j'ai pris un passage qui était en anglais, qui était des dialogues d'enfants. Je crois que j'avais pris ça d'ailleurs dans des dialogues d'enfants autistes, c'est des verbatims de dialogue d'enfant, et avec une espèce d'embryon de chanson, qui est une sorte de petite de petites leçons de cheval, comme ça. Et je me suis dit, c'est... En plus, là, il y a la question de chansons chantées en anglais ou en français. Donc, dans les paroles que je fais pour Quatre Dommages, j'essaie toujours de mixer l'anglais et le français, parce que c'est... Il a envie de chanter en anglais, et c'est utile de chanter en français. Donc, j'essayais de mettre ensemble, donner des morceaux comme ça, opposés, et de les mettre ensemble. Alors, c'est vrai que j'ai choisi ce texte anglais parce qu'il y a... C'est des espèces de babil, de petites... Des petites comptines. Donc c'est une comptine française plus une comptine anglaise, montée l'une sur l'autre, en débordé. Et c'est ça qui donne ce côté claudiquant à la chanson, et je trouve que Rodolphe a vraiment réussi.
S'arrête haut ce cheval mouvement. De la main au ralenti, ralentir son mouvement. Demi-art en A, arrête haut, arrête le cheval. Tant quand il s'arrête ce cheval, ralentir. Non, si vous bougez de là, attention, ne bougez pas, non. Pause, c'est fini, c'est fini.
Quand il s'arrête, exemple de cheval mouvement avec Olivier, où là c'est un fax que je reçois un jour avec ce texte qui était beaucoup plus long que ce que j'en ai retenu, mais d'emblée me paraissait formidable pour une chanson et en même temps simultanément impossible. Ça me paraissait impossible de faire une chanson avec ça, mais il fallait à tout prix que j'y arrive. Donc j'ai fait je ne sais combien d'essais pour arriver finalement à quelque chose qui a l'air, je crois, à l'écoute très très simple, très fluide, très évident. On a l'impression vraiment que ça a été fait pour ça. Et pas du tout, ça a été très très compliqué pour moi de rendre ça extrêmement fluide justement. Parce que j'ai un peu ce désir quand même d'arriver à des formes qui soient toujours limpides. Même si elles renferment peut-être des... Il y a plusieurs niveaux dedans, qu'on peut aller peut-être les... Il y a des résonances multiples. Je trouve que c'est très important dans une chanson qu'on soit dans un... En même temps, qu'on ne quitte jamais le plan, le premier plan, quoi, le plan de l'écoute simple et fluide.
Quand il s'arrête, oh, ce cheval mouvement de la main, ou ralentir son mouvement, demi-arrêtant, ah, arrête, oh, arrête le cheval, tant quand il s'arrête ce cheval, oh, ralentir quand il s'arrête ce cheval, mouvement demi-arrêtant, arrête, ralentir de la main, oh, ralentir. Quand il s'arrête, oh, ce cheval mouvement de la main, ou ralentir son mouvement demi-arrêtant, ah, arrête, oh, arrête le cheval, tant quand il s'arrête ce cheval, oh, ralentir, on pourrait le refaire 20 fois, en prenant des modes différents, quand il s'arrête ce cheval mouvement.
Olivier Cadieux.
Donc c'est vrai que c'était pré-rythmé, pré-découpé, comme devrait tout texte de poésie. En plus, c'est assez compliqué, parce que c'est dans un livre qui ressemble à un roman, où il y a des espèces de petits bouts, comme ça, qui sont des petites mécaniques. C'est vrai que les chansons qui m'amusent, moi, c'est des petites mécaniques, des petites boîtes à outils qui tournent toutes seules, comme ça. J'ai du mal à d'assumer la chanson avec le refrain. J'ai compris. Alors, je me suis dit, après, tout d'un coup, tiens, ce qui serait bien, c'est qu'il y a un refrain. C'est-à-dire que c'est un peu le fil à couper le beurre. Je découvre au bout d'un moment que dans une chanson, il y a un refrain. À la fin, ce serait pas mal que ça revienne.
Il y en a d'autres chansons, John et Marie, c'est sur le
John
même
et Marie. Mais c'est vrai que j'utilise des méthodes que j'utilise plus pour mon propre travail, des méthodes plus de cut-up, je découpe un peu des choses un peu partout. John et Marie, c'est un peu c'est tiré de grammaire anglaise générative, où on se retrouve avec des phrases qui sont démultipliées dans tous les sens et qui produisent des effets d'absurde. John, Marie likes, John, enfin. Des espèces de... Alors, c'est pas hasard aussi si je prends de l'anglais, mais un anglais très primitif. J'ai envie de faire chanter en anglais de manière bizarroïde. C'est vrai que j'utilise encore des méthodes de montage pour faire des chansons. Simplement pour pas avoir à prendre une feuille de papier et à commencer « Je t'aime, tu me manques, la lune est triste » et oui. Qui serait une vraie chanson.
Et à côté, Rodolphe utilise aussi du montage.
De plus en plus. Alors, c'est ça qui est bien, oui. Donc... Oui.
Ça se mélange.
Ça se mélange assez bien. Et c'est vrai que maintenant, Au moment où je vais devenir néoclassique, j'ai commencé à faire des grandes chansons.
Avec des grands refrains.
Voilà. À ce moment-là, Rodolphe passe au sampling super sophistiqué, donc c'est moi qui vais devenir très très acoustique.
Là, c'est le morceau dont je parlais tout à l'heure, avec un texte d'Anne Portugal, et donc j'ai samplé la voix de ma fille. Et là, le sampling, bon, c'est un usage très 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 simple, mais je l'ai enregistré à la sortie de l'école sans du tout la faire travailler. Donc j'attrape un mouvement spontané. Et ensuite, l'intervention, c'est simplement de couper. C'est comme un cut-up, en un sens. La mise en forme, c'est ça, c'est où on fait passer la coupe, on recale. Donc il y a une espèce de travail qui se fait sur une matière totalement fluide et spontanée, et où le geste de mise en forme, c'est juste une coupe. Et je trouve ça intéressant.
Un prélèvement.
Ouais. Aller prélever dans un livre d'Anne
Rodolphe Berger
un texte, un extrait qui est tout à fait particulier. C'est dans Le plus simple appareil, donc un recueil magnifique d'Anne Portugal. Il y avait un texte qui formellement déjà était tout à fait à part du reste, qui était scandé de manière très très régulière, ce qui n'est pas le cas des autres textes, et qui était déjà une boucle. Donc c'est certain que musicalement, la dimension de la répétitive, la dimension de la boucle est quelque chose qui facilite d'emblée la soudure. Donc là, je me suis permis de prendre une boucle et d'en faire une chanson.
Vous avez lu ce texte et est-ce que tout de suite, il vous semblait évident de le mettre en musique?
Oui, il y a eu ça vraiment.
Un désir.
Oui.
On peut dire le titre de ce texte, c'est peut-être les premiers
alors,
mots.
Donc le texte n'avait pas de titre au départ, donc oui. Avec son accord, on appelait ça Passe-Donne. Et c'est donc un texte qui était dans un livre et qui n'était pas du tout écrit pour devenir une chanson. Entre-temps, avec Anne, on a fait un peu d'autres choses. Elle a écrit des textes qui étaient plus destinés à être chanté, et qui était alors dans un registre qui nous intéresse un peu tous, je crois, qui est celui de la ritournelle, de quelque chose qui est très proche de la comptine, ou de quelque chose de très très archaïque dans la langue. Donc là, Anne m'a proposé, c'était au mois de juin dernier, un certain nombre de textes qui étaient des berceuses.
Est-ce que justement, j'en reviens un peu à la poésie contemporaine, il n'y a pas à l'intérieur de cette poésie-là, un rythme déjà qui est favorable peut-être pour vous qui êtes musicien?
Oui et non, parce que là aussi il y a un paradoxe, parce qu'évidemment dans la poésie contemporaine, enfin si on peut généraliser, on parle quand même là de poètes qui sont, même si on ne peut pas les identifier les uns aux autres, qui sont quand même sur des positions formelles extrêmement particulières, et qui ne sont pas du tout dans la poésie musicale, justement dans la... Ils ne sont pas du tout dans des rythmes réguliers, dans la rime, dans le vers, dans le beau vers, et dans la symétrie, dans l'équilibre harmonique. Ils sont constamment dans une... Au contraire, ils malmènent la syntaxe, ils sont dans des recherches de rythmes extrêmement sophistiquées, ils sont dans le rejet, dans le renvoi, chez Pierre, il y a des jeux très très savants. Chez Olivier, on est dans un rythme qui n'est pas du tout, a priori, le rythme de la chanson. Donc... il faut aller rejoindre un niveau qui est plus profond, qui est un niveau plus archaïque, qui est celui d'aller retrouver un geste rythmique, quoi, qui est à l'intérieur de ce qu'ils font, et d'essayer de le mettre en phase avec un geste musical qui pour moi est quand même au départ toujours un geste de guitare. De guitare avec ce qu'il y a autour, c'est pas seulement la guitare seule, c'est la guitare avec les bruits aussi que ça fait quand on tape dessus, il y a tout un côté blues là qui m'importe, c'est-à-dire la guitare comme instrument un peu qui déborde, quoi, qui déborde parce qu'il a un aspect rythmique, on peut tirer dessus, on peut taper dessus, on peut le griffer, le malmener. Donc il se prête justement à ce travail-là.
Et puis il y a la voix, enfin, c'est oui. Ça semble essentiel, le travail de la voix par rapport à la musique, par rapport au texte.
Et là, c'est toujours assez... là aussi, j'ai l'impression de marcher sur des œufs, parce que jusqu'où faut-il aller dans le... j'ai une sainte trouille du pathos, enfin, de l'effet vocal un peu facile ou tremblant, enfin, la vibration comme ça, lyrique. Donc, sans être non plus dans le détachement neutre, brechtien, distancié, etc. Jusqu'où aller ? Enfin, jusqu'où timbrer ? Jusqu'où chanter, d'ailleurs ? À partir de quand ça doit chanter et à partir de quand ça doit au contraire parler. Bon, c'est évidemment cet entre-deux qui m'intéresse le plus, mais le dosage de ça, quoi. Et pour moi, c'est toujours ce qui me permet de trouver des solutions, c'est toujours la technique. C'est-à-dire que c'est pas des choses que je peux décider a priori, c'est vraiment dans un contexte de son particulier.
Alors, et
c'est
lié au son. Interprétation, interpréter, ça doit être un mot qui vous.
Le mot interprétation,
oui, ça vous convient.
Me plaît.
Oui.
Je trouve ça. Enfin, je trouve que c'est très intéressant, l'interprétation, parce que ça suppose, donc, l'interprète, il révèle quelque chose donc, qui n'était pas apparent au premier abord, et il le fait par une opération qui est la sienne propre, enfin, il y a un double jeu ça suppose à la fois une relation à l'autre, et puis quand même une capacité à aiguiser sa propre singularité.
Un deuxième corps à la nuit passe, les autres l'observant, le jardin donne, du champ à leur vision passe, à même le buis, c'est le récit qu'elle donne. De petits animaux
d'or. La chanson est souvent gagnée par la mauvaise poésie. C'est souvent la poésie primitive. Et d'ailleurs, ça marche aussi comme ça. Parce que parfois, ça donne de très bons résultats.
Donc, d'un côté, il y a les poètes, de l'autre, les chansonniers. C'est vraiment deux mondes différents.
J'y comprends plus rien, parce que je sais plus très bien. Ce qui est amusant, c'est que c'est de prendre un objet d'un côté, le mettre dans un autre pot. C'est pour ça que je le prends dans les livres. C'est amusant de faire des expériences médicales avec les textes, c'est-à-dire voir comment ça réagit dans des solutions et dans des... Et voilà.
Est-ce qu'il y a réellement un côté majeur, un côté mineur
non.
De la chose ?
Non, non. Non, c'est très amusant de faire ça.
Et le fait qu'il y ait des personnes qui puissent découvrir Cadio par le biais d'un disque plutôt que par le biais d'un livre, est-ce que ça change quelque chose ?
Non, je ne sais pas. Non. Ça, je ne sais pas, franchement. D'abord, je crois que les gens s'intéressent... Les gens ont raison, les gens ne s'intéressent pas aux paroles. On regarde... Enfin, à moins d'être quelqu'un de très fanatique, de, je sais pas, ou d'un groupe, où on ne regarde jamais le nom des paroliers sur les... c'est tout à fait juste. C'est comme on ne sait pas qui est le librettiste Donizetti. Ça n'a aucune importance. Les paroles n'ont aucune importance. En fait.
Même temps, on les mémorise et on les chante quand on aime
oui,
une chanson.
On les chante. Il faut. On peut pas faire le. On peut pas chanter l'annuaire.
Non.
Mais l'idée est la même. Enfin, encore que bon, il faut que ça soit un annuaire, disons affectif, un peu tendre ou un peu excité, quoi, pour que ça marche. Mais c'est pas très important. C'est pour ça qu'il y a rien de pire que les recueils de chansons publiés après. Il y a rien de plus triste. Je trouve ça, c'est des livres de deuil, je trouve.
C'est plus dans l'intonation de la voix, dans l'émotion
C'est qu'il faut des textes, hein, mais que c'est pas grave. Enfin, je sais pas comment dire. Il en faut, c'est nécessaire, mais c'est vraiment... je sais pas, comme il faut la parole dans le cinéma. Si vous lisez un scénario, c'est rien de pire que lire un scénario. C'est horrible.
Est-ce qu'on peut dire que quand on lit un livre, on peut se l'approprier et finalement le détourner ou le faire vivre différemment ?
Bah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est la moindre des choses, oui. Mais disons que les rapports texte-musique que je croyais... je croyais penser des choses là-dessus il y a un certain temps. Maintenant, j'avoue que je trouve ça de plus en plus compliqué. Ça ne veut pas dire complexe ou difficile à comprendre, mais je ne sais pas très bien quoi penser de tout ça. C'est-à-dire, je trouve que... je pourrais dire exactement le contraire de tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire, je ne sais plus très bien ce qu'est une chanson. Est-ce qu'il y a de la chanson dans la littérature ? Qu'est-ce, chanson entendue au sens populaire, au sens... c'est vrai que, par exemple, Beckett, il y a de la chanson dans Beckett. Il y a, je ne sais pas, pour prendre un... chanson, ça ne veut pas nécessairement dire la dimension purement rythmique ou musicale d'un texte. Qui ça, à mon avis, est un problème secondaire.
C'est une résonance, plus ?
Non, c'est quelquefois, il y a des chansons au sens strict. Il y a des gens qui... Ça se met à chanter... je sais pas. Il y a des ritournelles, quoi. Des ritournelles qui... Des petites musiques dans les bons textes, les textes qu'on aime. Alors, je ne sais plus très bien si... Si finalement, ce sont deux choses si séparées que ça. Ce que j'aime dans la chanson, il peut exister dans la littérature. Et en même temps, j'aime pas particulièrement la chanson à texte, qui en général je m'ennuie parce que j'y retrouve ce que je n'aime pas en poésie. Donc c'est compliqué, voilà. Et en fait, là, vous me posez des questions que je ne me suis jamais posées, parce que justement, je suis dans un rapport de travail très très léger avec ça. Et ça se fait vraiment en bricolage, en temps réel. Et c'est Rodolphe qui organise. Et ça, j'aime bien.
C'est pas mal aussi de pas tout comprendre ou de Thomas pas Lago. Tout écouter dans certains cas. Je tiens pas du tout à l'idée que le texte soit toujours intelligible, très très mis en avant, etc. Dans certains cas, il peut être là justement comme une espèce de murmure ou de rumeur ou de choses un peu indistinctes, plutôt vocales, plutôt sonores que dans le sens. Par ailleurs, évidemment, c'est des textes qui ont un sens, enfin, qui ont des sens, donc c'est pas mal aussi qu'on les comprenne. Mais c'est souvent entre les deux. D'ailleurs, c'est souvent un petit peu, on peut le reprocher d'ailleurs, c'est souvent des textes qui sont un petit peu bizarres dans leur... dans ce qu'ils disent. On ne comprend pas tout, on ne sait pas forcément exactement de quoi ça parle, etc.
On peut se faire attraper par un mot, se faire capturer par un mot, ça suffit.
Oui, puis c'est aussi, du coup, ça, c'est censé vraiment s'intégrer à un travail musical. Et voilà, Katonoma, c'est des musiciens, donc le rock au sens vraiment de l'attitude du rock. Et peut-être pas la chose essentielle là-dedans. Enfin, c'est très bien le rock, évidemment, il y a des choses merveilleuses, mais essentiellement, c'est aussi resté ou devenu une attitude. Bon, ça a été inventé au moment où on a senti que les jeunes pouvaient constituer un marché, parce qu'ils avaient de l'argent aux États-Unis. Et donc, il y a une attitude qui s'est construite à ce moment-là, qui avait des raisons, qui était tout à fait... légitime et forte, mais qui s'est ensuite figée. Et donc, même maintenant, on voit bien les groupes anglais comme Blur ou Oasis se sentent obligés de reprendre la pose de rébellion qui trompe personne, d'arrogance qui est en fait complètement feinte, à laquelle eux-mêmes ne croient pas, parce que c'est l'attitude rock, quoi. Bon, c'est clair que pour Katonoma, l'attitude est très secondaire par rapport au travail musical. Donc pour les textes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est que les textes, d'une façon souvent imprévisible, produisent des effets de son, de sens, etc., qui dans la musique, nous intéressent.
Car vous n'auriez qu'un mot à dire dans la rue, la journée, si seulement il vous en disait.
La chambre, c'est... L'histoire de cette chanson est assez édifiante parce que c'était pas du tout une chanson, je pensais pas du tout à ça. C'est un texte de poésie, entre guillemets, assez long, que j'ai envoyé à Rodolphe comme ça, pour qu'il le lise et qu'il me donne son avis. Et il a extrait de ça une phrase en disant « je pourrais faire une chanson avec ça ». Et il m'a demandé, à partir de cette phrase, parce que c'était la seule qui lui semblait pouvoir marcher, de continuer le texte. Donc j'étais dans la situation de continuer un texte que j'avais déjà fait autrement. J'ai eu beaucoup de mal, finalement, le petit texte qui reste celui de la chanson est sorti de ça. Et moi, dès le début et jusqu'à la fin, je trouvais que c'était une très mauvaise idée de prendre ce texte. Je n'étais pas du tout convaincu par ça. Je me sentais gêné, justement, parce que c'était quelque chose qui était écrit dans un tout autre état d'esprit. Finalement, je sais pas si je me trompais, mais en tout cas, c'est la chanson dans le disque qui a été le plus remarquée, reprise et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'involontaire, on pourrait dire, totalement de ma part.
C'est ce côté transformable qui était gênant ? Adaptable, transformable, dépliable ?
Non, ça ne me gêne pas, parce que je ne pense pas qu'il faille respecter les textes. C'est la question de la voix, en fait. C'est que des choses qui peuvent être, qui peuvent paraître, comment dire, qu'on peut écrire et qu'on peut lire, ne sont pas forcément des choses qu'on peut chanter et qu'on peut entendre. Dans le ton, dans le pathos, dans le registre et tout ça. Et moi, j'avais l'impression que des choses écrites comme ça, ça devenait extrêmement gênant quand c'était chanté. Et c'est comme l'opéra, quoi. C'est comme de chanter des confidences sur l'oreiller. Enfin, c'est pas ça, mais il y a des choses qui marchent pas clamées. Et bon, musicalement, il y a d'autres manières de dire qui ne sont pas déclamatoires et qui, en l'occurrence, faisaient quand même quelque chose d'assez, d'assez sobre. Je ne sais pas si vous pensez à la profération du chanteur, mais moi je pensais là à des concerts où on voit certains garçons, certaines filles dans le public qui reprennent, qui connaissent les textes et qui les reprennent. Eh ben, c'est extrêmement émouvant, et c'est même c'est une émotion quasi érotique de voir des mots qu'on a écrits, qui passent dans la bouche de gens que vous ne connaissez pas, qui sont là tout près. C'est quelque chose de vraiment... je vous le conseille.
On parle sans parler. Le ciel est blanc. Les frontières sont floues.
Jacques Speller, c'est un des plus grands poètes américains.
Où sommes-nous périls ?
Ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement, c'est curieusement extrêmement romantique et extrêmement froid. C'est-à-dire que c'est une réussite que seuls les Américains ont pu faire, dans les années 50, 60, comme ça. C'est-à-dire un équilibre entre un truc extrêmement larme à l'œil et extrêmement formaliste. Et tout d'un coup, je me dis, tiens, ça, c'est ça. C'est ça qu'il faudrait chanter. Parce que d'ailleurs, ça permet de rebricoler le texte qu'il a fait. Après, il le monte... comme quelque chose d'incroyablement riche, où il y a de la parole, où il y a des refrains, où il y a des choses qui partent, qui reviennent. Donc ça fait une chose très...
très vivante.
Voilà.
La damoiselle Sacheresse, for example. One stag, one brachet, and one fay, all of which properly belong to the essentials of the adventures of a single hero.
Et le cœur se brise en petits morceaux d'ombre, presque au hasard et sans signification, comme un diamant avec à son centre un diamant, ou un roc à un roc. J'ai peur que l'amour ne pose trop crûment sa question, et je ne sais plus ce qui m'a fait venir ici. Pas plus que l'os ne peut répondre à l'os dans le bras, pas plus que l'ombre peut voir l'ombre. Nous nous dirigeons vers la mort comme un qui ferait du canot dans un petit lac, où à chaque extrémité il n'y aurait que des branches de pin. Nous allons vers la mort en barque, à cœur ou à corps brisé. Ce choix est réel, le diamant, c'est lui que je questionne.
Extrait de Billy the Kid, d'une œuvre du poète américain Jack Spicer, dont Gatonoma s'est inspiré pour l'un de ses albums.
L'essentiel des textes, c'est le texte original de Spicer. Mais il y a des choses qui se sont ajoutées. Voilà, là, c'est tout à fait comme on disait, une manière de bricoler sans du tout idée préconçue. C'est-à-dire que Rodolphe voulait chanter certains des poèmes du cycle de Spicer, pour d'autres ça s'y prêtait pas. Et il voulait aussi faire des chansons dont la musique, dont il avait la musique en tête, et pour lequel il fallait d'autres textes. Et donc, comme ça, de fil en aiguille, moi je lui ai proposé, ou lui, je ne sais plus, de faire des choses à partir de Spicer. Non pas en adaptant, en fait, ce n'est pas des adaptations, hein, c'est des sortes de réécriture, de collage,
de sensations autour des textes.
Oui, c'est comme quelqu'un qui viendrait de lire, qui aurait à peine lu Billy the Kid, juste en le refermant, aurait des souvenirs du texte qui ne seraient pas du tout exacts, qui ne seraient pas dans l'ordre, et qui seraient comme un commentaire qui se ferait à lui-même sur le texte, comme on se le raconterait. Ou une chose qu'on a beaucoup lue, parce que c'est un texte qu'on avait beaucoup lu, qu'on avait dans l'oreille beaucoup déjà avant de faire le disque. Donc, qui devient presque comme du par cœur, à partir de quoi on peut dévier, imaginer des choses, etc. Puis aussi imaginer des choses en français qui ne sont pas possibles dans une simple traduction, qu'on doit inventer parce que c'est du français. Dans la métrique, par exemple, faire des choses qui puissent être quelquefois régulières dans la prosodie, ce qui est impossible dans une traduction fidèle.
The radio that told me about the death. Billy the Kid. Cette première phrase de Billy the Kid qui est The radio that told me about the death of Billy the Kid, qui est un truc. C'est la radio qui m'a appris la mort de Billy the Kid. Donc c'est Billy the Kid in a field of poppies. Just one touch of moonlight. Ou le très beau texte là, The Trap. Quand ils sont au bord de la rivière. Elias, ça c'est de M. Elias. Somebody's there makes us want to drink the river. Le moment paranoïaque où il est là avec Alias, imagine que.
Let us fake out the frontier upon.
J'épouse plutôt le mouvement, c'est pas sûr qu'il y ait une espèce de mouvement de. Qui est plutôt un mouvement de compassion extrême. C'est Billy the Kid, à la fin c'est Billy the Kid, I love you, I back anything you say, etc. Bon, alors que. Bon, c'est okay. Dans une transposition absolue, puisque le personnage de Billy the Kid n'avait rien, je pense, d'aimable à ce point-là. On est dans quelque chose qui traverse, bien sûr, la légende de l'Ouest, qui traverse l'histoire de Billy the Kid, qu'il transforme en une espèce de pure déclaration d'amour. Billy the Kid devient... l'effigie de l'homme nu, comme ça, enfin, c'est très...
New York, you salesman of Arthur's pajamas
wants you to dance now.
On peut tourner les pages.
C'est la radio qui m'a appris la mort de Billy the Kid. Un jour d'été brûlant, un jour avec des oiseaux dans le ciel. Imaginons une frontière, un poème où quelqu'un pourrait se cacher avec la troupe d'un shérif à ses trousses. À 1000 kilomètres, s'il faut qu'il fasse 1000 kilomètres. Un poème sans tournant brusque, ni maison pour se perdre. Sans la trame magique ordinaire. Sans juif new-yorkais marchand de pyjamas améthyste. Rien qu'un endroit où Billy the Kid pourrait se cacher et tirer sur les gens. Jardin des supplices et montagnes russes. C'est la radio qui m'a appris la mort de Billy the Kid.
Radio thank you.
très nu magnétique, ça. Hein. Il n'y a pas encore de texte, là, pour ça. Oui, donc là, c'est le... C'est ce morceau sur lequel on a commencé à travailler où Liam fait un solo de radio, c'est-à-dire il prend une radio et il change les fréquences et très très vite comme ça et ça fait une partie musicale qui est un mélange de choses aléatoires et de choses maîtrisées et tout ça dans un contexte qui parle à guitare et reste blues. Donc la tension entre les deux, je pense, est intéressante. Parce que... On est dans quelque chose, peut-être, parce que ce qui me plaît, là, c'est... C'est d'avoir ces espèces de bribes de musicalité qui émergent dans un environnement chaotique comme ça qu'il est. On s'est repris, c'est réenglouti, puis ça réémerge. Et cette espèce de tension entre quelque chose d'organisé, quelque chose de contraire, complètement déstructuré.
L'art de couper, d'empiler, d'agencer, de boucler. Est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu tous ces termes? Parce que prélever comme ça un échantillon hein, de voix, de musique, si on devait mettre des images sur ces actions.
On est dans un moment technique intéressant parce qu'on est on a un petit peu digéré un certain nombre de choses, c'est-à-dire que le sampling, justement la technique de l'échantillonnage, le numérique est devenu très banal maintenant. Et on est dans un moment de mélange et d'assez grande fluidité, c'est-à-dire qu'on peut mélanger des technologies hyper récentes avec des choses très très anciennes et obtenir, je crois, des résultats musicaux tout à fait intéressants. Là, on est dans une époque où quelqu'un peut très bien manipuler un sampleur avec la même subtilité, sensualité même qu'un violoniste son violon. Il y a un toucher du programmateur.
Il y a cette même communication.
Oui, je pense que ça va pas de soi. Et évidemment, c'est rébarbatif au départ, comme ça. Et puis, là, je parle de quelque chose dont je suis pas familier. Moi, en plus, je suis pas du tout un spécialiste de l'ordinateur. J'ai toutes sortes de résistances parce que je suis pas de cette culture-là. Mais je constate que les gens avec qui je travaille, très souvent, techniciens, soit, développent une relation à ces machines qui est tout à fait du même ordre que celle du musicien avec son instrument. On est dans... en plus, avec la musique, souvent, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas... Je suis assez fasciné par la question de la technique en musique, parce que il n'y a rien qui peut, à un moment donné, vraiment avoir barre sur autre chose et faire on ne peut pas dire qu'à un moment donné, un son est périmé, ou qu'un appareil est périmé. On redécouvre sans cesse les vertus de techniques de prise de son très anciennes, on les mélange. Là, je vais travailler par exemple dans un studio près de Paris qui a été monté par quelqu'un qui allait rechercher, qui allait très très loin dans le vintage, qui allait rechercher des vieux préamplis fabriqués pour l'ORTF, notamment par des fabricants français très très forts, qui faisaient des choses extraordinaires. Ils travaillent que avec des micros à ruban, voire des micros à charbon. Bon. Et ça, ce serait un petit peu dérisoire et obsolète si c'était pas justement quelque chose de qu'on peut mélanger très facilement maintenant avec la technologie numérique. C'est-à-dire que la technique numérique vient faire remonter toute cette vieille technologie. Parce qu'on peut la bonifier. Ces appareils qui étaient.
En fait.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher avec un sampleur un élément, par exemple, dans un disque. Aller chercher un son au fond, un son de caisse claire dans un big band, et aller le mettre tout à fait devant. Le nettoyer, l'exhumer, le mettre en... On peut modifier le relief de tout ça, mais d'une certaine façon,
on accède, on enrichit sans cesse la matière à laquelle on a accès. Par le sampling, on accède à une matière qui est de plus en plus... de plus en plus, comment dire... souple, enfin, qui est éminemment travaillable en temps réel, donc dans un mouvement qui est le mouvement du jeu, qui est le mouvement exactement de l'instrumentiste qui improvise.
C'est synthétique, on peut parler de synthèse, de synthétique aussi.
Oui, mais en même temps, on accroît les possibilités sans cesse de manipulation, mais je pense que le fond de l'affaire musicalement reste toujours le même, c'est-à-dire il s'agit toujours de jouer, il s'agit toujours de produire un mouvement qui soit à la fois maîtrisé et lâché, et c'est ce jeu quoi, du lâcher et de la maîtrise qui caractérise le musicien. Enfin, c'est à un moment donné faire surgir quelque chose, se surprendre soi-même, et en même temps mettre en forme, enfin, et pouvoir le faire dans un seul mouvement.
Vous disiez maintenant que les musiciens jouent de la souris, c'est quand même une expression.
Ah, mais c'est vraiment ça. Si on regarde un programmateur, parce que ce qu'on appelle le programmateur, qui a un rôle très important maintenant dans la musique, puisqu'il prend en charge souvent, à lui tout seul, tout l'aspect rythmique. Donc, on peut très bien imaginer une musique, ça c'est très fréquent, une musique qui est fabriquée entièrement sans l'intervention d'aucun musicien. Donc, le programmateur est quelqu'un qui n'est pas forcément musicien, qui sait pas forcément jouer de la batterie, mais qui va reconstituer à lui tout seul, par exemple, toute une partie rythmique. Et un bon programmateur qui est à pied d'œuvre, enfin, j'en ai vu un hier remarquable, Robotini, donc, c'est Jimi Hendrix de la souris, quoi. C'est-à-dire, il manipule ça avec un type de dextérité qui n'est pas la dextérité de celui qui est très à l'aise avec une technique quelconque. Il le fait. Il a un geste qui est musical. Et c'est très, très joli à regarder, quoi, cette espèce de rapidité, de gestuelle. On était tous là.
Mais quand vous composez, vous prenez votre guitare ou vous prenez votre ordinateur?
Le plus souvent, c'est la guitare, mais de plus en plus, j'aime aussi aborder la chose par un autre biais, qui peut être alors qui est quelconque, qui peut être quelquefois une séquence. J'aime bien aussi les amorces arbitraires. J'aime bien le partir d'un élément tout à fait arbitraire.
On va écouter là par exemple une reprise, une espèce de déconstruction d'un morceau de Hendrix qu'on a fait avec Liam donc la semaine dernière, celui qui joue de la radio entre autres, mais pas sur ce morceau. Là on a un sample. On entend le craquement du vinyle. Donc on capte, c'est l'ouverture d'un concert de Hendrix. C'est le vinyle qu'on ralentit. Alors on manipule directement du passé. On manipule du passé sonore. Sur lequel on rejoue.
C'était Catonoma, comme son nom l'indique, avec Pierre Alféri, Rodolphe Berger, Olivier Cadio. Extrait de Billy the Kid de Jack Spicer. Équipe de réalisation, Jean-Charles Aknin, Noélie Louis-Marie, Lionel Béchaderg. Une émission d'Isabelle Druon et de Marie-Laure Ciboulet. Nuit magnétique, bonsoir.
La chanson c'est Hey Baby, sous-titré The Land of the New Rising Sun, c'est une des grandes ballades blues.
Il y a une nostalgie du vinyle, des craquements des...
Non, pas que. Je pense pas que dans ce contexte-là, ce soit une nostalgie, parce que c'est en même temps, c'est un peu excessif, on s'est monté plus fort, c'est-à-dire presque quelque chose d'un peu agressif, dans le médium aigu. Là, Donc il y a à la fois ça, il y a l'idée de d'attraper des morceaux de passé. Alors, c'est émouvant parce que c'est... c'est la sensation qu'on a quand on réécoute quelque chose qui n'a pas perdu, qui n'a pas pris une ride, enfin, qui immédiatement transporte, qui est comme un parfum, quoi.
On fait vibrer la photo.
Oui, c'est ça, c'est exactement. Mais et en même temps, il s'agit de réécrire dessus. Il ne s'agit pas simplement de faire un hommage nostalgique. Bon, il s'agit de réécrire dessus, d'en faire aussi quelque chose qui soit, qui se décale et qui soit contemporain. Là, on a un peu détourné des techniques qui viennent un peu du hip-hop, enfin, du rap. Mais dans un contexte, c'est pas du tout celui-là.
C'est émouvant.
C'était une des chansons fétiches de Hendrix, dont il existe des centaines de versions, si on compte les pirates. Il a joué toujours autrement. Donc j'ai essayé de faire une espèce d'évocation de cette chanson plutôt qu'une version. Yes you can, yes you can, she said. Come on back with me for a while.
We're gonna go. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 avril 1998.